Bonjour à vous, fidèles auditeurs de La Voix de l'Amérique. Bienvenue dans Votre Santé, Votre Avenir, le magazine d'information sur la santé de VOA Afrique. Je suis Nani Tetalani. Au Niger, au moins une centaine de personnes sont déjà mortes de choléra et plus de 4000 cas ont été recensés depuis la déclaration de l'épidémie en août dernier. Le nombre de cas notifiés dans certaines régions diminue, mais les efforts se poursuivent pour rompre la chaîne de transmission là où les foyers de choléra restent actifs. L'ONG Médecins sans frontières a lancé une réponse d'urgence pour appuyer la prise en charge des patients et contrer la propagation du choléra. Quelles sont les actions que l'ONG mène pour contrer la maladie? Quelles sont les principales victimes de cette épidémie? Quelles en sont les causes? Quelle est la gravité du choléra?
Le choléra, généralement, c'est une maladie qu'il faut prendre au sérieux. Sans une prise en charge adéquate, la personne peut passer de la vie à la mort, malheureusement.
Pour trouver des réponses à ces questions, nous recevrons le docteur Hassan Issa, coordinateur des urgences pour MSF au Niger. Voici le moment de suivre notre entrevue avec le docteur Hassan Issa.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Bonjour docteur, nous sommes ravis de vous avoir comme invité.
Bonjour.
Pour commencer, qu'est-ce qu'on entend par choléra?
Le choléra se définit comme étant une maladie diarrhéique due au vibrion cholérique. Il évolue suivant les pays sur un mode endémique et ou épidémique et reste au plan mondial un problème majeur de santé publique avec plus de 40 pays touchés, dont la majorité en Asie et en Afrique.
Et qu'en est-il du cas du Niger qui connaît actuellement une épidémie de choléra?
Pour le cas du Niger, le choléra est apparu pour la première fois en 1971 et la dernière épidémie date de 2018 au cours de laquelle les équipes de Médecins sans frontières sont intervenues pour répondre à la situation aux côtés des autorités sanitaires du Niger.
Qu'est-ce qui a déclenché cette épidémie au Niger dernièrement?
Ce qui a déclenché l'épidémie de 2021 serait probablement lié d'une part à la proximité des zones touchées avec les zones du Nigeria qui étaient en épidémie depuis le début de l'année, avec les mouvements transfrontaliers des personnes infectées qui pourraient facilement introduire les vibrions dans la population, et d'autre part avec la saison des pluies et le ruissellement des eaux qui pouvaient facilement entraîner aussi des vibrions dans certaines sources d'eau sont contaminées, sont oublier aussi les risques des épidémies qui augmentent si les conditions favorisant la transmission sont réunies, notamment les conditions de vie précaires, assainissement, l'approvisionnement en eau potable, l'hygiène des faillants et une forte concentration des populations. En ajoutant aussi particulièrement cette année au Niger, notamment la région de Maradi et la zone de Niamey ont été touchées par des fortes inondations cette année, mais aussi l'année précédente, en 2020.
Mais en général, qu'est-ce qui provoque souvent le choléra?
De façon générale, pour dire les causes, c'est beaucoup plus lié à une hygiène précaire, ça veut dire le manque d'eau potable, en quelque sorte, de qualité, défauts liés à l'hygiène, les conditions de vie précaires, promiscuité des populations et notamment la contamination des sources d'eau qui peuvent être liées par une épidémie en cours, en tout cas, et ça peut favoriser malheureusement le développement rapide et la propagation de la maladie.
Est-ce que c'est une maladie qu'on doit négliger ou qu'on doit prendre au sérieux?
Le choléra, généralement, c'est une maladie qu'il faut prendre au sérieux. C'est une maladie, en fait, qui se manifeste déjà par des diarrhées aqueuses. Le plus souvent, une fois que ça arrive, la grande majorité présente la forme bénigne sans manifestation, mais une minorité quand même de la population présente des diarrhées aqueuses sévères. Sans une prise en charge adéquate, la personne peut passer de la vie à la mort, malheureusement.
Au Niger actuellement, quelles sont les régions les plus touchées par cette épidémie?
Aujourd'hui, au Niger, les zones les plus touchées par cette épidémie sont notamment la région de Maradi, avec près de 3000 cas notifiés, soit près de 56% des cas notifiés dans tous les pays, et la région de Daba, au centre du pays, avec un peu plus de 25% des cas, et la région des Anders. Ces trois régions-là totalisent à eux trois à peu près 90% des cas. Et ces trois régions, en plus d'être voisines les unes des autres, partagent une frontière avec le Nigeria, mais aussi c'est les régions les plus peuplées du pays.
Y a-t-il un risque pour que la maladie s'étende vers d'autres régions ou d'autres pays de la sous-région?
L'épidémie se propage rapidement, malheureusement, dans des zones densément peuplées, avec une mobilité facile des populations, les échanges commerciaux, notamment les cérémonies. Dans le cadre de Niger et de l'épidémie de l'année 2021, l'épidémie a commencé par la région des Ender. Ensuite, elle s'est étendue en l'espace de 2 mois sur 6 autres régions du pays, à savoir Maradi, Tawa, Dosso, Chilabéry et la capitale Niamey. L'épidémie vient de s'étendre à la région des Diffa à l'est du pays, avec la notification de 2 cas suspects de choléra le 25 septembre dernier par les autorités sanitaires.
Et concernant la sous-région?
Pour ce qui est de la sous-région, d'autres pays étaient en épidémie en 2021 avant le Niger, ce qui peut expliquer que l'épidémie peut s'étendre à d'autres pays si les mesures de lutte de prévention ne sont pas renforcées. Pour le cas du Niger, depuis le début, 34 districts qui ont notifié, districts sanitaires qui ont notifié des cas. À ce jour, au 4 octobre dernier, seuls 11 districts sanitaires continuent à notifier des cas, ce qui montre quand même une baisse de près de 70% des districts des zones touchées. Cependant, les équipes du ministère de la Santé, appuyées par les équipes de Médecins Sans Frontières, continuent à être vigilants afin de maintenir les résultats acquis et renforcer la surveillance, la détection rapide des cas et la prise en charge et étouffer l'épidémie.
Le choléra est-il traitable?
De manière générale, les vivriens du choléra se trouvent dans l'eau et sur les aliments. Et la propagation de la maladie est particulièrement favorisée par les manques d'hygiène. Le traitement est symptomatique en fonction des signes présentés par les malades. Ce qui signifie que la réponse médicale consiste à réhydrater les malades et attendre que l'infection passe. Plus spécifiquement, la réponse contre les choléra comprend plusieurs volets, notamment la mise en place des centres des unités de traitement de choléra pour isoler les malades et les réhydrater avec un circuit d'accueil précis pour les patients et des phases de réhydratation en fonction de la gravité des cas. La réhydratation peut commencer aussi au cœur des communautés avec des points de réhydratation orale pour les personnes qui présentent des formes légères. Le traitement des sources d'eau et des traitements des foyers avec du choléra. La prime est un renforcement en maintenance des latrines existantes, mais surtout la sensibilisation des communautés sur des mesures d'hygiène et des barrières pour prendre et respecter pour limiter la propagation de la maladie. Enfin, la vaccination peut être aussi un moyen de lutte pour interrompre la chaîne de transmission de la maladie et éviter de nouveaux foyers et de nouveaux décès.
En parlant de nouveaux foyers, nous avons un autre auditeur en République démocratique du Congo à Kinshasa qui veut savoir si le choléra est une maladie contagieuse.
On peut se dire que le choléra, c'est plutôt une maladie. Elle n'est pas transmise, on va dire, par respiration, mais c'est plutôt une maladie qui est manifestée. Ça veut dire que c'est à travers les aliments, à travers l'eau que la maladie est transmise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire même si une personne contaminée est en contact avec une personne saine, et qu'elle les touche, tant qu'il n'y a pas une transmission, la main qui touche l'aliment ou qui touche les malades ne prend pas un aliment, la main contaminée, n'envoie pas vers la bouche, la transmission est limitée.
Le même auditeur, Alphonse Mouaki, aimerait savoir la distinction qu'il y a à faire entre une diarrhée normale et une diarrhée due au choléra.
On peut commencer par la définition des diarrhées parce que la diarrhée est considérée comme étant une émission de sel liquide au-delà de 3 fois par jour. Donc, et dans le cadre du choléra, en fait, la distinction, c'est que la diarrhée, le plus souvent, elle est accompagnée par des douleurs abdominales. Mais surtout, en fait, la couleur de diarrhée, elle est différente. Comme on dit, c'est une diarrhée complètement liquide et plus ou moins à l'eau de riz. Donc, ça ressemble à l'eau qui vient de la préparation du riz, quoi. Et c'est vraiment acide et c'est très, très liquide. Et ça peut conduire très, très, très rapidement à une déshydratation sévère. Si la prise en charge n'est pas assurée, peut conduire malheureusement à la mort du patient.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Docteur, que risquent les malades qui ne suivent aucun traitement contre le choléra?
Les patients qui ne bénéficient pas de prise en charge vont inéluctablement vers la déshydratation sévère qui peut malheureusement conduire à la mort. Donc la prise en charge du choléra est très, 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 très importante. La détection et la prise en charge rapide des cas permet de sauver des vies.
Mais la prise en charge est-elle accessible à tout le monde?
globalement, comme je disais tout à l'heure, la prise en charge du choléra, elle est dans le cadre des réponses d'une épidémie. La prise en charge, elle est gratuite. La population est sensibilisée. La population aussi fait partie intégrante de la réponse épidémique à travers des sensibilisations qui sont mises en place. La prise en charge globalement de la communauté référence et des vies des malades vers les centres de prise en charge sont appuyés gratuitement par les équipes de réponse des ministères de la Santé qui sont appuyés par les équipes de Médecins Sans Frontières. Donc la prise en charge est vraiment accessible et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de la réhydratation et elle peut commencer dans la communauté très rapidement avec des sels de réhydratation orale, communément appelés les SRO, qui peut être donné aux malades avant son transfert vers les centres de santé. Et une fois dans les centres de santé aussi, de faire la réhydratation, soit par voie orale ou par voie parentérale, en fonction de la gravité des cas.
Médecins Sans Frontières a lancé une réponse d'urgence contre le choléra. Que vise cette réponse et en quoi consiste-t-elle?
L'objectif de notre intervention dans les différentes régions où nous intervenons est de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liée à l'épidémie du choléra. De manière plus spécifique, nous le faisons en coupant la chaîne de transmission via la détection des cas suspects, l'isolement, l'appui à la prise en charge et la sensibilisation sur les respects des mesures barrières et la surveillance communautaire. En réponse au cas de choléra détecté dans 7 des 8 régions du Niger.
Et comment se fait cette intervention?
Médecins Sans Frontières a déployé 3 équipes d'urgence dans 7 des régions en épidémie. Et MSF a mis en place 15 centres et unités de traitement et de prise en charge des cas de choléra et pris en charge depuis le début de l'épidémie près de 2500 patients, ce qui représente à peu près de 50% des cas notifiés dans le pays. Avec les autorités sanitaires du pays, les équipes de Médecins Sans Frontières assurent la prise en charge des patients, mais aussi un appui logistique en ressources humaines, en médicaments consommables, ainsi que la décontamination des points d'eau, le traitement de l'eau et la désinfection des foyers, des cas, ainsi que leur voisinage et la sensibilisation de la communauté pour aider à la détection précoce et la prise en charge des cas. Nous avons également renforcé la surveillance épidémiologique dans toutes nos zones d'intervention au Niger, notamment dans la région de Bifa, Gender, Maradi, Tawa, Tilabéi et Niamey. Nous avons commencé notamment notre réponse d'urgence depuis le 18 juillet dans la région de Gender, quand les premiers cas de la maladie ont été notifiés dans l'hôpital du district sanitaire de Magaya. Et dès ce moment, nous avons mobilisé des équipes, installé des unités de traitement dans la région de Gender, dans la région de Maradi, qui est également la zone la plus touchée, avec 6 centres de traitement mis en place. Nous avons ensuite augmenté notre réponse d'urgence dans la région de Maradi, Tawa, Niamey et la région de Bissa avec une intervention directe dans la prise en charge des cas, notamment à Madarumfa, un appui logistique dans le district sanitaire de Guidérenji et la mise en place des unités de traitement dans la région de Tawa, notamment à Birminkoni, à Malbaga. Globalement, la prise en charge continue. On continue à vraiment appuyer les autorités sanitaires dans le pays pour continuer à répondre à l'épidémie. Et nous avons également appuyé la stérilisation des points d'eau, tels que des mares et des récipients, et la distribution des comprimés pour le traitement de l'eau et la sensibilisation de la population sur les mesures barrières et tout ça. Enfin, notre équipe d'urgence détachée dans la région de Tawa s'est installée des centres de traitement au niveau de Madawa et de Birminkoni.
Tout ça ne doit pas être aussi facile à faire. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés?
La difficulté majeure reste la multiplication des foyers nécessitant plus de moyens logistiques, financiers et humains pour en faire face, mais aussi des admissions parfois tardives des malades dans les centres de prise en charge. Mais globalement, le redéploiement des équipes d'urgence et de Médecins Sans Frontières en collaboration avec les autorités sanitaires et le renforcement des sensibilisations dans les communautés ainsi que les actions des autres acteurs, ces difficultés sont en train d'être solutionnées et la tendance globalement est à la baisse du nombre de cas depuis une dizaine de jours dans les zones infectées par l'épidémie.
Est-ce qu'on peut prévenir le choléra?
Bien sûr, au-delà de la réponse d'urgence, dans le cadre de l'épidémie, sur le long terme, la mesure la plus efficace pour lutter contre la résurgence de la maladie dans les zones épidémiques ou endémiques consiste à investir massivement dans le renforcement des dispositifs et de la potabilisation de l'eau, ça veut dire le traitement de l'eau et la mise en place d'un réseau d'égouts permettant de renforcer la qualité de l'hygiène.
Existe-t-il un vaccin contre le choléra?
il existe un vaccin contre le choléra. Mais bon, il faut savoir que les vaccins mis sur le marché en 2010 n'est disponible qu'en petite quantité, est limité et met parfois plusieurs semaines à être acheminé dans les pays en besoin, ce qui parfois oblige les autorités sanitaires des pays affectés et les partenaires humanitaires impliqués dans la réponse de l'épidémie à faire des choix en termes de lieux et de nombre de personnes à être ciblées par la vaccination. Donc, en ce qui concerne cette vaccination, en tout cas, Médecins Sans Frontières se tient prête à appuyer le ministère de la Santé pour une campagne de vaccination dans les régions les plus touchées en fonction des besoins qui sera déterminée.
En parlant du vaccin, nous avons un auditeur, Lasgasek, qui écrit que seule la vaccination des masses et une politique de prévention contre l'épidémie pourront freiner sa propagation. Donc,
effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, la vaccination des masses existe, mais qui dit vaccination des masses dit aussi une quantité importante de vaccins. Étant donné la disponibilité, en tout cas peu limitée des vaccins sur les marchés, cela quand même oblige en quelque sorte, comme je dis, les autorités sanitaires et les acteurs humanitaires de les pays, tels que les Médecins Sans Frontières, à faire des choix en termes de lieux et des zones. Comme aujourd'hui, vous voyez dans l'état du Niger, ça fait quand même sept régions qui sont touchées et à peu près 32 districts. Mais bon, les districts et les zones ne sont pas touchés tous au même degré. Évidemment, en fonction de la quantité qui sera disponible, le choix sera fait en tenant compte aussi de la cible la plus touchée pour pouvoir vacciner et limiter la propagation de la maladie. Mais de manière pérenne et efficace, en tout cas, et à long terme pour pouvoir lutter et prévenir la maladie, c'est beaucoup plus, comme j'ai dit tout à l'heure, investir dans le traitement de l'eau, la potabilisation de l'eau, mais aussi mettre en place un réseau de vie.
Parlons d'approvisionnement de l'eau, c'est une question qui incombe aussi aux autorités publiques. Quelle devait donc être leur implication dans la lutte contre le choléra? Quel rôle les autorités nigériennes doivent aussi jouer?
Les équipes de Médecins Sans Frontières travaillent et coordonnent la réponse avec les autorités sanitaires dans les différentes zones d'intervention. Les missions d'investigation épidémique sont faites conjointement avec les autorités sanitaires des zones d'intervention et les centres de traitement des choléra de Médecins Sans Frontières sont installés dans les structures sanitaires du ministère de la Santé. Le travail conjoint que nous menons sur le terrain permet de renforcer les capacités des équipes, mais aussi de partager les expériences entre les différentes équipes de Médecins Sans Frontières et celles du ministère de la Santé.
Qu'en est-il des communautés locales? Quelle devait être leur implication?
Dans le cadre de la réponse de l'épidémie de choléra ainsi que dans la réponse aussi de toute autre épidémie ainsi que dans sa prévention, la communauté joue un rôle très très très, très important dans la sensibilisation, la détection rapide des cas pour une prise en charge précoce. Et l'implication des leaders communautaires et les chefs traditionnels, les imams, les élus locaux, ainsi que les autorités administratives, il va de la réussite, en tout cas, de l'intervention et de la réponse d'une épidémie quelconque. L'acceptance de cette communauté, la fréquentation des centres de prise en charge, le respect des conseils de lutte contre les épidémies, mais aussi l'orientation des cas vers les centres de santé pour une prise en charge précoce. Dans le cadre de l'hiver, des comités de gestion des épidémies sont en place au niveau, dans tous les échelons, au niveau régional, départemental et communal, et sont pleinement impliqués à la réponse de l'épidémie.
Qu'est-ce qui fait que cette maladie continue de perdurer en Afrique? Pourquoi on n'arrive pas à l'endiguer comme dans d'autres continents?
Effectivement, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est multifacteur. Aujourd'hui, dans certains pays, elle est plutôt endémique, ça veut dire que c'est toute l'année et tout le temps. Dans certains pays, c'est épidémique, avec des pics saisonniers, notamment pendant les saisons de pluie. Je pense que les raisons sont multiples. Déjà, quand on regarde les conditions précaires dont vivent certaines populations de certaines localités, la qualité de l'eau et les traitements de cette dernière, mais aussi le plus souvent l'hygiène. Mais bon, dans la plupart des pays africains, en tout cas, l'épidémie survient pendant la saison des pluies. La saison des pluies, c'est quand même une saison propice à la propagation de la maladie parce que pour plusieurs raisons, Déjà, en termes de l'eau, l'accessibilité, la disponibilité de l'eau potable est un défi, ce qui fait que pendant la saison de pluie, la population préfère, et c'est le choix le plus facile, parce qu'ils sont en train de travailler dans les champs et à des cours d'eau qui se remplissent aussi généralement pendant la saison de pluie. Et la population prend cette eau-là pour la consommation sans traitement, mais aussi durant la saison de pluie, avec les inondations, les sources d'eau, les puits et les mares les plus souvent sont contaminées. Et ça favorise malheureusement la propagation de la maladie. Et ça devient de plus en plus un fléau et un problème de santé publique.
Quel est le conseil que vous donnez à toutes les personnes qui vous suivent? Je sais qu'en ce moment, nous parlons du Niger, mais la maladie peut aussi survenir dans d'autres pays d'Afrique.
Le conseil qu'on peut donner rapidement, étant donné que le choléra étant transmis par la consommation des aliments et l'eau contaminée par les vivriens, les nains sales et les aliments non cuits, en tout cas, et ça fait en sorte que toute personne qui se trouve dans un contexte exposé peut attraper la maladie et court le risque de développer cette maladie. Et le conseil qu'on donne, c'est vraiment le renforcement de l'hygiène et s'assurer que les lavages des mains, parce que tant que la main ne transporte pas soit l'eau contaminée ou un aliment contaminé de la main à la bouche, la chaîne de transmission est coupée. Donc c'est vraiment lavage des mains et respect des barrières.
Du coup, c'est une maladie à laquelle tout le monde est exposé.
Malheureusement, oui. Si une personne vit dans un contexte ou dans une zone épidémique de choléra, et malheureusement, toute personne peut être exposée. Même si ce qu'on constate durant cette épidémie en cours, les personnes les plus, on va dire, les plus exposées à développer des risques sont des risques de complications, voire même entraîner la mort, c'est les personnes les plus âgées, les personnes atteintes de malnutrition aiguë sévère ou atteintes de maladies chroniques ou bien les femmes enceintes. Notamment dans le cadre de notre réponse cette année, menée dans les différentes zones d'intervention en collaboration avec les autorités sanitaires du pays, on constate quand même que la tranche d'âge la plus touchée est celle de plus de 15 ans avec 65% des cas, suivie de celle de 5 à 14 ans avec 23% des cas.
Merci beaucoup, docteur, d'avoir été notre invité pour cette émission consacrée à l'épidémie de choléra au Niger. Au revoir.
Au revoir, je vous remercie.
C'était l'entretien que nous a accordé le docteur Hassan Issa, coordinateur des urgences pour MSF au Niger. Maintenant, place à Carnet de santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, des solutions dans la médecine traditionnelle émergent en Afrique pour la lutte contre le COVID-19. Nous jetons un regard. Ensuite, le Nigeria combat rumeurs et mythes afin de faire vacciner plus de personnes contre le coronavirus. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Certaines personnes se tournent vers la médecine traditionnelle en appui à leur usage de la médecine conventionnelle. Pour d'autres, c'est le seul moyen de prendre soin de leur santé. La médecine traditionnelle comprend les pratiques, connaissances et croyances en matière de santé propres à différentes cultures pour traiter, diagnostiquer et prévenir les maladies ou maintenir le bien-être. On estime que 80% des personnes dans le monde dépendent de la médecine traditionnelle à base de plantes pour leurs soins de santé primaire. Les observateurs disent que la pandémie de coronavirus a revalorisé cette médecine sur le continent africain. Partons au Cameroun, où au moins deux produits de la pharmacopée traditionnelle ont été approuvés comme thérapie complémentaire contre le COVID-19. L'un d'eux est Corocure, fruit d'une recherche menée par un cardiologue camerounais, le docteur Eloge Mfopou. Notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Jules Ntap, a visité sa clinique. Regardez.
Lorsque nous sommes autorisés à rencontrer David dans sa chambre d'isolement, il est à son troisième jour d'hospitalisation. Après un test positif au Covid-19, sa prise en charge se fait dans cette clinique où a été mis au point le Corecure, désormais associé au protocole classique du traitement des patients du Covid-19 au Cameroun.
C'est un produit en poudre, oui, qu'il faut juste mélanger à de l'eau chaude et le boire de manière tiède. Le traitement est pour 5 jours, mais déjà depuis 3 jours, déjà, je suis vraiment en forme.
Des nouvelles rassurantes qui redonnent du sourire à la génitrice de David, venue s'enquérir de son état de santé.
Par rapport à mardi, ça va vraiment fatigué, cassé, il avait mal à la tête, le froid, il grelottait, il n'avait pas moyen de se lever, tout le corps lui faisait mal. Il a pu se lever, il est sorti, il est retourné, il mange même déjà.
Dans son bureau, l'inventeur du Corecure, médecin cardiologue depuis 25 ans, savoure avec modestie la reconnaissance scientifique de ses recherches attestées par des résultats probants.
À la phase expérimentale, on a eu plus de 1500 guéris. Hein. Le taux d'efficacité est de 97,3%. Pris à la phase légère ou à la phase modérée ou modérée à sévère.
L'an dernier, le Corecure a été testé sur une trentaine de patients qui présentaient des symptômes du Covid-19, tels que les difficultés respiratoires.
Et j'ai été interné là-bas, j'ai passé à peu près une semaine là-bas. La façon dont j'y ai été pris en charge, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est formidable, il n'y a pas beaucoup de gens comme lui au Cameroun.
Le ministre de la Santé publique a autorisé l'utilisation du Corecure pour une période de 2 ans. Après avis favorable de la Commission nationale du médicament.
C'est une plante qu'on appelle le tumeur vulgaris, qui dans le cadre de Covid contient 4 principes actifs. Nous avons les polyphénols, les tanins, les flavonoïdes et puis les dérivés terpéniques. Ces 4 molécules sont des antioxydants, des puissants antioxydants, parce que quand vous avez le Covid, vous avez une production de ce que nous appelons les radicaux libres. Il faut les neutraliser pour limiter l'inflammation dans le corps. Le polyphénol, tanin, flavonoïde sont également des immunomodulateurs. Vous avez une forte réaction du corps, de l'immunité et une augmentation importante des taux de lymphocytes d'après les résultats de la recherche que j'ai menée et qui vont contre le Covid. C'est impuissant, c'est un antiviral. Un antiviral, surtout les polyphénols de contact, et une inhibition, ça entraîne une inhibition intracellulaire du virus.
Le temps de fabrication du Corecure varie entre 10 à 12 jours. Une unité de production agricole de la plante dérivée sera bientôt fonctionnelle. D'après le docteur Éloge Fobou, des quantités suffisantes de Corecure sont disponibles pour pouvoir répondre à une autre vague de Covid-19. Emmanuel Jumtap pour VOA Afrique, Yaoundé.
Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.
Que prend fin votre santé, votre avenir. Ce programme était consacré à l'épidémie de choléra qui sévit au Niger depuis quelques mois. Notre invité, le docteur Hassan Issa, a évoqué les principales causes de cette maladie. Il a aussi expliqué ce que l'ONG Médecins Sans Frontières fait pour lutter contre l'épidémie. Le docteur Hassan Issa est coordinateur des urgences pour MSF au Niger. Dans la seconde partie de notre magazine, vous avez suivi Carnet de Santé avec Linor Moudou. Cette émission santé a été réalisée grâce au concours de Georges Léonard Sagnon. À la présentation, Nanit Talani. Continuez d'écouter VO Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.